Parce que la Bible, elle est sûrement présente dans de nombreuses maisons de ce canton, présente comme un livre, souvent empoussiéré, jamais ouvert, comme si les gens avaient un coffre-fort qui a 1 million dedans, mais qui l'ouvre jamais. Oh, voyez, c'est des vieilleries, on n'a plus besoin de tout ça, nous. Dans l'église du village de Saint-Symphorin se déroulent de nombreux mariages l'été. Et j'ai un ami, l'ami Fonjala, il y en a un ici aussi de Fonjala, bien sûr. Eh bien, il a une vigne juste en dessous de l'église. Et chaque année, du temps que j'étais encore en lien avec lui, il ramassait plusieurs bibles de mariage que les mariés lançaient dans la vigne en sortant de l'église. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre, une bibliothèque. La Bible devient parole vivante et agissante dans nos vies par notre foi et par l'invocation du Saint-Esprit sur notre lecture. Et puis, il faut aussi lire les textes bibliques comme nous le suggère un ami très cher, disparu hélas, mais depuis un bon moment, Gilbert Cesbron. J'espère que vous n'avez pas oublié Gilbert Cesbron. Qu'est-ce qu'il dit ? Je lis la Bible en chrétien plus qu'en théologien, comme un parfumeur qui crée ses parfums en aimant les fleurs, mais pas la chimie. Et pourtant, il est important de revenir toujours à la langue originale, car traduire, c'est toujours un peu trahir. C'est Pascal qui a dit « L'ignorance n'est pas une vertu ». Oui, mes chers, j'ai envie de poursuivre avec vous ce chemin ardu des textes difficiles et parfois scandaleux de l'Ancien Testament. La prochaine fois, j'aurai le privilège d'être avec vous le 24 octobre, on parlera du sermon sur la montagne. Mais ce matin, on reste encore là. Lors de ma présence précédente, présence virtuelle mais quand même réelle, nous nous sommes penchés sur l'histoire de Jephté, vous vous souvenez, ce sacrifice stupide de sa fille. Ce matin, j'aimerais vous parler de Samson, un héros de la Bible pour des rencontres de culte de l'enfance, mais en réalité un chenapin et un homme à femme. Avec une question choquante que je nous pose aujourd'hui. Est-ce que Dieu bénit les attentats suicides ? Nous sommes à juste titre choqués et scandalisé de tous ces attentats meurtriers, de la réaction de Charlie Hebdo en 2013, des 130 morts du Bataclan en 2015, du Ground Zero en 2001, et puis tous ceux qui ont suivi Bagdad, Kaboul, Londres, Madrid, Jérusalem et j'en passe. On s'en rappelle avec tristesse et colère. On demande justice et on veut garder et protéger la liberté d'expression, ce qui est juste et bon. Mais en septembre de l'année passée, en 2020, eh bien Charlie Hebdo a réédité les caricatures de Mahomet. Et là, je me pose une question. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout et se moquer de tout ? Je ne suis pas sûr que dans les circonstances actuelles, rééditer ces caricatures de Mahomet soit judicieux, respectueux et apaisant. D'ailleurs, ce qui est toléré en France ne l'est pas chez nous. Le Code pénal suisse punit, à l'article 261, les atteintes à la liberté de croyance et des cultes. Sont ainsi visés les propos et les actes qui méprisent ou dénigrent les croyances d'autrui. Ce n'est pas la divinité ou la religion en tant que telle qui sont protégées, mais le sentiment qui nous habite de croire en un Dieu. Une partie du Conseil national a voulu abroger cet article il y a 4 ans, mais les chambres fédérales l'ont maintenu avec une majorité confortable. Cela signifie que la Suisse exige le droit au respect de notre foi et de nos croyances religieuses. Ça me rassure, mais je reste quand même choqué par ces massacres stupides et il est juste que les coupables soient punis. Nous allons parler de Samson, soi-disant un super-héros biblique qui était plutôt un anti-héros, un homme excessif, revanchard, on pourrait dire aussi un homme à femme. Il faut, je crois, accepter d'entendre les questions posées par ces textes plusieurs fois millénaires est pourtant d'une surprenante actualité. Mais quoi de plus normal en somme ? La Bible que nous aimons, que nous pratiquons, elle parle de quoi ? Elle parle de nous, de notre existence, de la vie, de la mort, de l'amour, de la haine, de la joie, de l'injustice, de l'oppression. Bref, tout ce qui fait le quotidien des humains depuis la nuit des temps. Nous allons lire un extrait de cette histoire de Samson. La saga est un peu longue, mais prendre le temps de lire les textes bibliques dans nos rencontres, c'est finalement le centre de notre célébration. Avant de les lire, je vous invite encore à prier. Père, nous voici devant toi pour écouter la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Et nous savons que ton évangile n'est pas un mythe forgé par les hommes pour expliquer l'inconnu. Ton évangile n'est pas un conte inventé par les humains pour bercer leurs frayeurs et combler leurs désirs. Ton évangile n'est pas un refrain que l'on se répète le dimanche comme une ritournelle. Non. Ton évangile est une surprise qui vient nous interpeller pour bousculer nos habitudes. Ton évangile est un appel qui vient nous chercher pour nous ouvrir à la vie. Ton évangile est un perpétuel recommencement qui transforme la peur en confiance, la lâcheté en courage et la haine en amour. Seigneur, que ton esprit descende sur nous et qu'il nous ouvre à ta parole de vie. Amen. Et voici deux extraits de l'histoire de Samson que vous pourrez relire dans les Juges de 13 à 16, tranquillement à la maison. Les Israélites firent encore du mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra aux mains des Philistins pendant 40 ans. Un homme de Zora, nommé Manoa, du clan des Danites, avait une femme sans enfant, incapable d'accoucher. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Tu es stérile et sans enfant, mais tu vas tomber enceinte et donner naissance à un fils. » Maintenant, veille à ne boire ni vin ni autre boisson fermentée, à ne rien manger d'impur. Tu deviendras enceinte et tu auras un fils dont la tête ne sera jamais touchée par un rasoir parce que le garçon doit être naziréen, voué à Dieu, dès le sein maternel. Il prendra la tête en délivrant Israël des mains des Philistins. Et puis plus loin, dans Juges 16, quelque temps plus tard, il s'est passé déjà des choses avec Samson, il tombe amoureux d'une femme de la vallée de Sorek, qui s'appelait Dalila. Les chefs des Philistins s'approchèrent d'elle et lui dirent « Vois si tu peux l'attirer pour qu'il te montre le secret de sa grande force et comment nous pouvons le maîtriser afin de l'attacher et de le soumettre. Chacun de nous vous donnera 1100 sicles d'argent. » Dalila dit à Samson « Dis-moi le secret de ta grande force et comment tu peux être lié et soumis. » Samson lui répondit, « Si quelqu'un m'attache avec 7 cordes d'arc fraîches qui n'ont pas été séchées, je deviendrai aussi faible que tout autre homme. » Alors les chefs des Philistins lui apportèrent 7 cordes d'arc fraîches qui n'avaient pas été séchées et elle l'attacha avec elles. Avec des hommes cachés dans la pièce, elle l'appelait, « Samson, les Philistins sont sur toi !» Mais il cassa les cordes de l'arc aussi facilement qu'un morceau de ficelle casse lorsqu'il s'approche d'une flamme. Le secret de sa force n'a donc pas été découvert. Dalila dit à Samson, « Tu m'as ridiculisé, tu m'as menti. Viens maintenant, dis-moi comment tu peux être attaché. » Il dit, « Si quelqu'un m'attache solidement avec des cordes neuves qui n'ont jamais été utilisées, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Dalila prit des cordes neuves et l'attacha avec. Puis avec des hommes cachés dans la pièce, elle l'appela, « Samson, les Philistins sont sur toi !» Mais il arracha les cordes dans ses bras comme s'il s'agissait de fils ténus. Dalila dit alors à Samson, « Pendant tout ce temps, tu t'es moqué de moi, tu m'as menti. Dis-moi comment tu peux être attaché. » Il a répondu, « Si vous tissez les 7 tresses de ma tête dans le tissu du métier à tisser et que vous le serrez avec une épingle, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors pendant qu'il dormait, Dalila a pris les 7 tresses de sa tête, les a tissées dans le tissu et serrées avec l'épingle. De nouveau, elle l'appela, « Samson, les Philistins sont sur toi !» Il se réveilla de son sommeil, arracha l'épingle et le mettait à tisser avec le tissu. Alors elle lui dit, « Mais comment peux-tu dire « je t'aime » alors que tu ne te confies pas à moi ?» C'est la troisième fois que tu te moques de moi et que tu ne me dis pas le secret de ta grande force. Avec tant de hargne, elle poussa jour après jour Samson jusqu'à ses derniers retranchements et jusqu'à ce qu'il en tombe malade. Alors il lui raconta tout. « Aucun rasoir n'a jamais été utilisé sur ma tête, a-t-il déclaré, parce que j'ai été un naziréen dédié à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si ma tête était rasée, ma force me quitterait et je deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. » Quand Dalila vit qu'il lui avait tout dit, elle fit dire au chef des Philistins « Revenez encore, il m'a tout dit. » Alors les chefs des Philistins revinrent avec l'argent à la main. Après l'avoir endormi sur ses genoux, elle demanda à quelqu'un de lui raser les 7 tresses de ses cheveux et elle se mit à le maîtriser et sa force le quitta. Puis elle cria « Samson, les Philistins sont sur toi !» Il s'est réveillé de son sommeil et a pensé « Je vais sortir comme avant et me secouer. » Mais il ne savait pas qu'avant même de perdre ses cheveux, le Seigneur l'avait quitté. Alors les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Le liant avec des chaînes de bronze, ils le mirent moudre du grain dans la prison. Mais les cheveux de sa tête recommencèrent à pousser. Or, les chefs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour le célébrer en disant « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant « Notre Dieu a livré notre ennemi entre nos mains, celui qui a dévasté nos terres et multiplié nos morts. » Alors qu'ils étaient de bonne humeur, en fait, ils crièrent « Faites venir Samson pour nous divertir !» Alors ils le firent sortir de la prison et il chanta pour eux. Quand ils le placèrent au milieu des colonnes, Samson dit au serviteur qui lui tenait la main « Mets-moi où je peux sentir les colonnes qui soutiennent le temple, afin que je puisse m'appuyer contre elles. » Or, le temple était rempli d'hommes et de femmes, tous des dirigeants des Philistins. Et sur le toit, il y avait environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson pria le Seigneur. « Souverain Seigneur, souviens-toi de moi. S'il te plaît, mon Dieu, renforce-moi encore une fois et laisse-moi d'un seul coup me venger des Philistins pour mes deux yeux. » Puis Samson tendit la main vers les deux piliers sur lesquels se dressait le temple, s'appuyant contre eux, la main droite sur l'une et la main gauche sur l'autre. Samson dit « Que je meure avec les Philistins !» Alors il poussa de toutes ses forces et le temple tomba sur les dirigeants et sur tous les gens qui s'y trouvaient. Ainsi, il en tua beaucoup plus à sa mort que de son vivant. Alors ses frères et toute la famille de son père descendirent le chercher, ils le ramenèrent et l'ensevelirent entre Zora et Eshtaol dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait été juge sur Israël pendant 20 ans. Et voici encore un texte dans l'évangile de Matthieu. On y reviendra à la fin du message. Matthieu 2, 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va au pays d'Israël car ceux qui ont essayé de tuer l'enfant sont morts. » Alors il se leva, prit l'enfant et sa mère et se rendit au pays d'Israël. Mais lorsqu'il apprit qu'Archélaüs régnait en Judée à la place de son père Hérode, il eut peur d'y aller. Ayant été averti en songe, il se retira dans le district de la Galilée et alla vivre dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Après avoir entendu ce texte que nous connaissons tous, vous comprenez ma question initiale, est-ce que Dieu bénit les attentats suicides? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Samson n'est-il pas en tout point semblable à l'un de ces soi-disant martyrs dont les médias nous rapportent les terrifiants exploits? Poser cette question un peu directe, c'est accepter de se laisser décentrer dans nos habitudes de lecture pieuse que l'on perpétue de génération en génération. Nous décentrer pour entendre ces récits bibliques d'une façon plus profane et surtout, et c'est notre travail à nous les théologiens, plus proche du texte initial hébreu, mais aussi les lire de manière chrétienne et religieuse, mais peut-être un peu moins attachés à une tradition qui n'est pas dans la Bible. Car l'histoire de Samson fait partie de ces soi-disant belles histoires de la Bible avec lesquelles pas mal d'entre nous ont été bercés, mais trop souvent bernés, durant notre enfance. Nous connaissons tous plus ou moins l'histoire de Samson et Dalila, l'histoire des cheveux au pouvoir mystérieux qui, une fois coupés, font perdre la force aux héros, et aussi l'histoire de Samson qui massacre 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne, ou bien ces 300 renards qui ont le feu accroché à la queue et qui détruisent tous les blés des Philistins. Pour ceux qui auraient oublié cette saga, vous pouvez la relire, c'est les chapitres 13 à 16 des Juges. Au fond, que nous dit-elle, l'histoire de Samson? Elle se déroule entre 1200 et 1000 avant Jésus-Christ. C'est une période qui suit l'épopée de la conquête de Canaan et qui précède l'avènement de la monarchie avec Saül comme premier roi. C'est la période dite des juges, d'où le titre du livre biblique qui raconte cette histoire. Cette période de décadence progressive, régulièrement sauvée de ses égarements par les juges envoyés par Dieu, le peuple retombe immanquablement dans l'infidélité à l'Alliance, une fois que le juge a disparu. Et tout se passe comme si la décadence du peuple finissait par atteindre jusqu'aux juges eux-mêmes, dont la figure de Samson, dernier juge avant l'anarchie finale, frise la caricature. C'est une BD, cette histoire. Samson est choisi par Dieu selon le rite du Naziréat, c'est-à-dire dans un contexte précis, revêtu par la force de l'Esprit de Dieu pour libérer son peuple de l'oppression par la guerre sainte. Or, Samson, le Naziréen, ne se servira jamais de cette force pour libérer Israël de ses ennemis. En fait, on ne le voit à aucun moment exercer son métier de juge. Et à aucun moment, il ne manifeste le moindre souci pour son peuple. Il est sa vie durant uniquement préoccupé par deux choses, les femmes et la vengeance. Les femmes avec lesquelles il ne sait jamais comment s'y prendre. Il les séduit et se fait ensuite embobiner par elles. La vengeance qu'il fomente contre les Philistins, non pas parce qu'ils oppriment son peuple, mais parce que comme il les trompe et les massacre allègrement, ces derniers veulent à tout prix s'en débarrasser. Mais Samson aussi, lui dont la force mystérieuse semble résider dans ses cheveux. Ah, les cheveux de Samson. Eh bien, parlons-en justement de cette histoire de cheveux. Samson, on l'a dit, est un homme à femme. Et c'est un homme qui aime raconter des histoires, se vanter. Il aime aussi se raconter des histoires à lui-même. Et d'ailleurs, il les raconte tellement bien, ces histoires, que non seulement les femmes, mais les lecteurs que nous sommes, les croient. Que tout le monde, et peut-être même lui, les prend pour argent comptant. Ainsi, la fameuse histoire des cheveux, secret, dit-il, de sa force herculéenne. Cette histoire des cheveux de Samson, il s'en est fait tout un cinéma. Et puis nous aussi, avec les péplums des années 50, pour conforter l'imaginaire religieux de nos lectures naïves. Le rasoir, c'est Samson qui parle. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazir de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi, je viendrais faible. Je serai comme tout le monde. Qu'y a-t-il d'autre à entendre dans cette affirmation que le narcissisme exacerbé de quelqu'un à qui sa vocation s'est littéralement montée à la tête et qui se prend pour un surhomme revêtu d'un pouvoir magique et donc différent du commun des mortels? L'histoire d'un homme qui ne veut pas être comme tout le monde. Car si vous relisez attentivement le début de l'histoire au chapitre 13, vous constaterez que l'affirmation de Samson n'est pas conforme à ce que le narrateur raconte. Il est certes nazir, il est mis à part pour Dieu, en conséquence de quoi le rasoir ne doit pas passer sur sa tête, selon la loi juive en vigueur. Mais voilà bien la seule chose exacte dans cette affaire. Pour le reste, Samson tire de cette vocation une conséquence qu'à aucun moment le rédacteur biblique n'accrédite. Si j'étais rasé, ma force se retirait de moi, je serais faible, je deviens trop comme tout le monde. Ça, c'est lui qui l'invente. C'est de son cru. Jamais le messager venu annoncer à ses parents qu'ils allaient avoir un enfant consacré à Dieu, jamais le messager n'a dit une telle chose. Cette histoire de cheveux n'est tout simplement pas dans le texte. Ce que Samson prend ses désirs pour la réalité, il se prend pour quelqu'un qui a un pouvoir magique, et comme dans la guerre des étoiles, la force est sur toi, Samson. Oui, mais le côté sombre de la force aussi. Mais les plus connaisseurs diront de cette histoire, la preuve que ses cheveux ont un pouvoir magique, mais n'est donnée par le récit, puisqu'une fois rasé, Samson ne peut plus se défendre et sa force surhumaine disparut. Là encore, le récit n'établit aucun lien direct entre les deux événements. Pourtant, le texte dit au verset 20, au moment où Samson est capturé par les Philistins, « Le Seigneur s'était retiré de lui. » Comme si Samson, prisonnier de sa violence, de son désir de vengeance, de sa volonté de puissance, de son orgueil, n'était justement plus digne d'être habité par la puissance du Seigneur. Un juge destitué, en somme, par le Seigneur lui-même. Et pourquoi alors ne peut-il plus se libérer du piège tendu des Philistins ? Parce qu'il s'est fait dompter par Dalila, mais Dieu l'avait déjà quitté. Car Dalila, ce ne sont pas simplement les cheveux qu'elle coupe, comme un coiffeur passerait le rasoir sur les ciseaux sur la tête de son client. Avec le texte biblique, il faut toujours être attentif aux détails. Dieu coupe les 7 tresses de Samson. Si l'on se rappelle que le chiffre 7 signifie la plénitude, on comprend que c'est sa puissance et la force du Seigneur sur lui que Dalila a enlevé à ce gros bébé d'Hercule endormi sur ses genoux. Il est là comme vidé de sa force et de son lien avec le Seigneur, pris au piège de la femme avec qui il entretient une relation sadomasochiste. Ils sont tous les deux, depuis le début du récit, dans une relation pour le moins ambiguë. Elle veut le dompter, elle lui joue à lui échapper. Or, cette fois, il ne peut plus s'en sortir. Il n'en a plus la force. Car le Seigneur s'est retiré de lui, mais nous lui dit le texte, avant que Dalila coupe les tresses. Le voilà prisonnier, les yeux crevés, comme s'il s'agissait de signifier par le corps de Samson qu'il est, sans le savoir, aveuglé sur lui-même. Alors je crois que le seul lecteur pris dans la mythomanie narcissique de Samson n'entend pas l'ironie cruelle de l'auteur quand il nous gratifie de cette banalité digne de Monsieur la Palisse. Cependant, ses cheveux ont recommencé à pousser. Tiens, on n'aurait pas cru. Il faut être naïf pour conclure qu'il existe un lien entre le retour de sa force et la longueur de ses cheveux. Rien ne permet de le dire dans le texte. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le désir de vengeance de Samson est décuplé et avec lui sa force. D'ailleurs, il ne reste plus que cela, son désir de vengeance. Un désir qu'il va concrétiser par ce qu'il faut bien appeler par son nom, un attentat suicide. La folie se mêle à l'horreur absolue. C'est le ground zéro avant l'heure, signé Samson, soi-disant héros biblique, plutôt anti-héros. Et voilà finalement ce qui me gêne beaucoup dans ce texte. Avant de commettre son crime horrible, Samson invoque Dieu. « Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie, donne-moi la force, seulement cette fois-ci, ô Dieu, que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. » Et aussitôt après, dans un effort surhumain, il provoque l'effondrement de l'édifice dans lequel 3000 personnes sont rassemblées, comme en 2001 à New York. Des personnes innocentes et coupables, comme à Bagdad aussi, Kaboul, Londres, Madrid, Paris ou Jérusalem, innocentes et coupables de tout ce que l'on voudra bien les accuser ou les disculper. Et là encore, si nous lisons attentivement le texte hébreu, on ne pourra faire aucun lien entre l'invocation de Dieu et la chute de l'édifice. Pour le faire, il aurait fallu une de ces petites phrases fréquentes dans l'Ancien Testament, du style « L'Esprit de Dieu remplit Samson » ou « Le Seigneur répondit à la prière de Samson ». Rien de tout cela. Samson invoque Dieu, mais Dieu se tait. Encore une fois, Samson prend son désir pour des réalités. Et ça reflète furieusement les communiqués plus ou moins officiels des kamikazes de toute espèce, mais aussi parfois de ceux qui prétendent les poursuivre au nom d'un axe du bien ou d'une jihad, une guerre sainte. Samson dit que je meurs avec les Philistins, il s'arc-boute, tout tombe, 3000 morts. Quelle vie de juge en vérité. Un juge, comme on en demande parfois dans des moments de haine, quand la vie semble vous faire mal, Samson a été juge durant 20 ans sans cesser vraiment de mettre le pays à feu et à sang. Il y a fort à parier que la mort de Samson a été une libération pour les Philistins, mais pas seulement. Et je reviens ici à ma question du début. Est-ce que Dieu bénit les attentats suicides? Tout dépend, vous l'avez bien compris, de quel Dieu je fais fonctionner. Quel Dieu je mets à mon service? Rappelez-vous la dernière guerre, Kot Mituns, c'était sur les ceinturons des nazis, ou le Dieu de la Bible. Dans cette histoire de Samson, le nazir, c'est un modèle biblique, mais c'est un contre-exemple finalement. Un exemple à ne pas suivre. Ce qu'il ne faut pas faire, surtout justement au nom de Dieu. Inch'Allah, Allahu Akbar, Dieu est grand. C'est pour cela, je crois, que Samson sera le dernier juge en Israël. Il n'y en a plus avant Samuel, parce que on n'a pas trouvé le chemin. Dieu, semble-t-il, abandonne cette voie de l'homme ou de la femme, il ne faut pas oublier Déborah, consacrée dans sa version de super-héros. Il préfère alors passer, et c'est là que devient le basculement, du naziréen, guerrier violent, pour lui préférer un autre chemin, le chemin du nazaréen, doux et humble de cœur. Dieu va renoncer à la force musculaire de Samson et choisir le joug facile et le fardeau léger de l'homme, du Fils de l'homme, de Nazareth. Un nazaréen qui lui aussi va connaître une mort violente. Mais à la différence de Samson, une mort qui ne donne pas la mort, mais qui donne la vie, qui ne tue pas, mais qui se laisse tuer. C'est là que réside la grande différence entre Samson et Jésus. Dans sa mort, Samson, le Naziréen, cherche à tuer tout ce qui est vivant autour de lui. Dans sa folie meurtrière, il considère que plus rien n'a le droit de vivre, puisque lui non plus, il n'arrive plus à voir ni à vivre. Puisqu'après avoir prétendu qu'il n'était pas comme tout le monde, on l'a contraint à devenir moins que tout le monde. Il va tuer tout le monde. À l'inverse, Jésus, notre ami, notre copain Jésus, il accepte de traverser l'épreuve de la mort, non pas contre les autres, mais pour les autres. C'est cela pour moi le sens profond de l'expression selon laquelle Jésus est mort pour nous, en faisant jusqu'au bout l'expérience de la vie humaine et de sa condition. En traversant le deuil, Jésus de Nazareth vient inscrire l'espérance et la joie au cœur même de la mort. Si la mort meurtrière de Samson sonne le glas de toute forme d'espérance, la mort de Jésus s'ouvre vers la lumière de la résurrection et de la vie éternelle. Non pas pour nier le deuil en un happy end mensonger qui ferait de la résurrection le prolongement indéfini de la vie physique, la méthode Coué, dont on a parlé, non, mais pour donner sens à cette épreuve que chacune et chacun de nous ne cesse de traverser sa vie durant la souffrance et jusqu'au dernier passage, la mort. C'est en mourant à soi-même, à ses illusions de puissance, que l'on peut s'ouvrir vraiment à l'autre et à la vie véritable. Cela, la mort de Samson, le nazir, en est le contre-exemple terrible. Une mort sans avenir, une mort qui tue toute espèce d'espérance. La mort de Jésus le Nazaréen est à l'inverse une mort porteuse de vie. Elle s'offre à nous comme une issue possible dans ce monde absurde. Et elle sollicite la part vivante qui est en nous. Car Jésus nous invite à contempler non pas l'absurdité du néant, qui dit le dernier mot de toute chose, mais à contempler l'horizon qui se lève au bout de la nuit. La petite flamme espérance qui brille encore dans la vie de chacun. La mort de Jésus, parce qu'elle débouche sur la résurrection, rallume la flamme du désir de vie quand plus rien ne permet de penser que c'est encore possible. Il y a Samson le Naziréen, héros perdu de la guerre sainte, que Dieu n'en soutient pas, j'en suis convaincu, et je réponds là à ma question du début, non, Dieu ne soutient pas les attentats suicides, jamais. Car il y a Jésus, le Nazaréen, compagnon de route, charpentier de nos vies, qui reste avec nous, il nous l'a dit, jusqu'au bout de la route. Il y a là tout l'écart possible entre l'attirance meurtrière des hommes pour la puissance qui détruit et l'amour inconditionnel de Dieu dans la Bible pour sa créature. Aujourd'hui encore, l'écart entre Samson le Naziréen et Jésus le Nazaréen, c'est l'écart entre l'espace dans lequel nous déployons notre existence. Nous oscillons sans cesse entre ce qui nous tue et ce qui nous fait vivre, entre ce qui veut en nous tuer le désir de vivre et ce qui nous appelle sans se lasser à désirer la vie véritable. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Entre Samson et Jésus, il y a notre existence à chacun d'entre nous, et Dieu nous le redit ce matin à nouveau. Oui, je veux que vous tous, vous soyez sauvés. Alors, choisissons la vie, dans la joie. Amen.